Dans quelques mois, les Israéliens seront appelés aux urnes pour élire leurs députés et, de fait, leur premier ministre. Ce seront les premières élections depuis le 7 octobre 2023, un événement qui a profondément ébranlé la société israélienne et la perception qu'elle a de ses institutions et de ses représentants politiques. Comment ce traumatisme se traduira-t-il dans les urnes? Quelle voix pour dire les fractures d'une société profondément divisée? Les Israéliens peuvent-ils espérer retrouver unité et stabilité institutionnelle et politique? Et cela malgré un scrutin à la proportionnelle intégrale qui favorise les petits partis et complique la formation d'une majorité parlementaire, laissant la part belle aux stratèges politiques. C'est à toutes ces questions qu'a voulu répondre Myriam Shermer, journaliste politique israélienne, dans son ouvrage Knesset 2026, publié aux éditions Hermann. Myriam Shermer, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Academ. Avant de démarrer, petite question, à qui s'adresse ce livre? Pour qui l'avez-vous écrit?
C'est avant tout un guide de la politique israélienne, donc à quiconque veut mieux comprendre effectivement ce système que vous avez très bien décrit en introduction, que ce soit un étudiant ou quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi c'est tout le temps la crise politique en Israël. Et puis ensuite, effectivement, il y a aussi un appel aux Israéliens, alors les Israéliens qui comprennent le français en l'occurrence, mais à essayer de mieux s'entendre quand même malgré tout, parce que les conséquences de la crise politique ont été très chères payées en Israël et qu'on ne peut pas se permettre de continuer à faire de la politique de bas étage.
Donc Ashkenaz, Sépharad et Mizrahim, russophone, arabe israélien, juif orthodoxe, vous établissez une typologie des Israéliens à travers les différentes communautés dans lesquelles ils s'inscrivent. Et pour décrypter leur réaction et leur système de valeurs, vous faites appel à la psychologie et au postulat de Jonathan Haidt, qui estime que nos raisonnements sont toujours d'abord influencés par une réaction émotive et instinctive. Notre morale naîtrait d'intuitions profondes et de réflexes, et des réflexes polarisés autour de 6 valeurs fondamentales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Faire le ménage. Oui, alors donc la polarisation, c'est un mal qui ronge toutes les démocraties, en France aussi, aux États-Unis, etc. Mais en Israël, c'est quand même particulier, à la fois en raison du système que vous avez très bien décrit, et en plus parce que la politique est extrêmement identitaire en Israël, puisqu'on vote en fonction de la kippa qu'on a sur la tête ou non. Et donc, on est loin de la synthèse des idées et davantage dans le combat identitaire. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je voulais décrypter le pourquoi du comment, les intuitions profondes, parce que très souvent en politique, alors ça c'est vrai des Israéliens mais de tout le monde, en réalité on a l'impression qu'on s'embroche sur les faits, sur les détails, enfin 99% des gens sur les réseaux sociaux passent beaucoup de temps à argumenter sur les faits de telle ou telle question, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça, on a des profondes intuitions morales qui nous viennent à la fois de notre culture, de notre éducation, du grand milieu idéologique dans lequel on baigne, mais aussi de notre propre personnalité, j'en parle dans le livre, en fonction qu'on soit très optimiste sur le monde et qu'on pense que tout va très bien se passer et que l'histoire va forcément dans le bon sens, on va prendre davantage de risques, on va davantage être progressiste parce qu'on croit à la révolution et au fait de pouvoir changer les choses en permanence, ou alors on va être plutôt conservateur quand on estime qu'il faut au contraire préserver le monde, faire attention, ne pas trop faire la révolution parce que c'est casse-gueule, etc. Donc il y a les optimistes et les pessimistes dans toutes les cultures, encore une fois, mais dans la culture israélienne, c'est teinté de l'histoire juive et de ses catastrophes en plus, donc tout ça est quand même très lourd. Et donc, en fonction de son éducation et de sa personnalité, on va naturellement se diriger vers une grande valeur ou une autre.
Donc, parmi les grandes valeurs, nous avons la compassion, la justice, la liberté, donc celles-là qui sont plus attachées au camp progressiste, et la loyauté, l'autorité et le sacré. Vous avez parlé du pessimisme et de l'optimisme. Alors, vous faites l'analyse de Benjamin Netanyahou, qui est issu donc d'un environnement, vous dites, pessimiste, de par son père universitaire et de par les épreuves qu'il a traversées également. Dites-nous en plus.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, donc c'est le fils de Ben-Sion Netanyahou, qui est un professeur d'histoire, qui était notamment spécialisé dans l'inquisition juive, et ensuite qui est un homme de droite qui va être marqué par le fait que les élites de gauche israéliennes vont rejeter ses positions révisionnistes, et donc il va davantage trouver sa place aux États-Unis. C'est comme ça que Benjamin Netanyahou parle si bien anglais, puisqu'il a grandi aux États-Unis. Donc l'histoire de la famille est marquée à la fois par ses grandes idées de droite et par cette idée que porte le père, qu'en réalité la Shoah n'a jamais pris fin, que quelque part dans le monde il est toujours 1938, que les Juifs doivent toujours se méfier de la prochaine catastrophe. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que, le père est encore plus pessimiste que le fils, qui, lui, déjà passe quand même pour un Cassandre professionnel, qui parle tout le temps de cette histoire juive. Et quand il est obsédé, on me pose parfois la question en conférence, Netanyahou parle de l'Iran depuis des années maintenant, bien avant que la plupart des Israéliens comprennent. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Pourquoi il radote en permanence sur les catastrophes, alors que la culture israélienne, ça peut être Yair Lapid, ou ça peut être des personnages effectivement plus solaires, plus tournés vers le progrès et les grandes possibilités israéliennes.
Mais alors, de votre récit, donc, on pourrait comprendre que le comportement de Benjamin Netanyahou peut être quasiment intégralement expliqué par l'histoire et les traumatismes. C'est presque, si on en oublie, la capacité de stratégie politique du Premier ministre et des alliances qui ont été réalisées lors de ces dernières années, notamment avec les partis religieux. Comment on peut expliquer cette réalité-là? Est-ce que selon vous, c'est un mélange de ces deux côtés finalement?
Oui, alors de fait, parce que Netanyahou est un conservateur, son conservatisme se sent à l'aise avec les partis religieux, et ce depuis toujours. Il est plus à l'aise avec eux qu'avec les juifs de gauche, dont pourtant il est plus proche sociologiquement parlant. Je pense notamment à la petite phrase qu'il dit au Rav Kandouri dans les années 90, où il dit « les juifs de gauche ont oublié ce que ça veut dire d'être juif ». Et ça fait évidemment polémique, mais ce que lui, il entend par là, c'est « les juifs de gauche ont oublié l'histoire juive, et qu'il faut toujours être sur ses gardes, toujours se méfier ». Donc pour lui, il se sent à l'aise avec des gens qui partagent son point de vue. Alors les ultra-orthodoxes, ils ont des points de vue très différents que Benjamin Netanyahou, ils sont beaucoup moins capitalistes que lui. Il y a des choses qui sont très différentes entre les Likoud et les orthodoxes. Mais il y a ce commun de ce bagage juif, de parler le langage juif avec lequel Benjamin Netanyahou se sent à l'aise. Et puis, sur le plan stratégique, vous avez quand même raison de le souligner, bien entendu qu'il préfère des partenaires de coalition qui sont commodes. Pourquoi ils sont commodes? Parce que je raconte dans le livre à quel point les orthodoxes sont séparatistes en réalité, et n'ont pas réellement envie d'être israélien, de s'intégrer. Donc pour eux, ils ne demandent pas grand-chose à Netanyahou en échange, pas de grands ministères, pas de grandes prérogatives. Tout ce qu'ils veulent, c'est les fameux budgets pour soutenir les yeshivot, les écoles talmudiques. Et pour Netanyahou, qui aime gouverner seul, qui a été élevé aux États-Unis où le président est au-dessus de la mêlée, donc qui se conçoit un petit peu comme ça, il préfère largement faire alliance avec un parti qui lui laisse les coudées franches qu'avec un politicien ambitieux qui va lui réclamer des choses, le portefeuille des affaires étrangères, etc.
Alors, il est temps d'évoquer ce qui peut être perçu de l'extérieur comme une contradiction, c'est le fait que Benjamin Netanyahou soit le représentant d'une communauté séfarade et mizrahi. Vous l'expliquez dans le livre, donc des juifs issus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et de Turquie et d'Iran également. Pourquoi cette figure-là, qui vient d'Europe de l'Est, est considérée comme le porte-voix des séfarades?
Oui, alors dans les mots d'Amit Segal, qui est un grand journaliste israélien, Bibi n'a pas franchement la tête d'un bibiste. Effectivement, c'est vrai, ça paraît comme une contradiction, mais en réalité, si vous entrez de nouveau dans le système de valeurs, vous comprenez pourquoi ça match. D'ailleurs, ça ne date pas de Netanyahou, ça date de Menachem Begin. Menachem Begin, qui lui aussi est un juif né en Pologne, hein, donc a priori, lui et Ben Gurion sont nés dans le même endroit. Mais Begin va effectivement plaire aux séfarades et aux mizrahim parce qu'il il met l'accent sur l'honneur juif, sur la tradition, sur la loyauté, sur le sens du sacré, autant de valeurs qu'ils sont délaissés par les laïcs socialistes et qui sont appréciés par un judaïsme plus traditionnel oriental. Il va venir les voir en tailleur, il va tenir un certain nombre de manières, il ne va pas hésiter à faire référence au divin, même si lui-même n'est pas religieux. Donc il se sent plus à l'aise dans ce champ lexical. Il ne faut pas oublier que l'Israël des débuts, c'est un Israël extrêmement laïque, avec les socialistes qui font un rejet de Dieu parce qu'ils considèrent que la halakha, donc le code de conduite juif, en fait, leur pèse tellement qu'elle empêche d'aller vers la souveraineté, vers la construction d'un État. Donc lui, Begin et ensuite Netanyahou, arrivent à faire cette synthèse d'être à la fois des hommes d'État, des politiciens, mais qui se servent d'un vocabulaire qui met davantage à l'aise ces populations-là, en sachant que Netanyahou ne partage pas les valeurs ultra-religieuses, ni des ultra-orthodoxes, ni des sionistes religieux. D'ailleurs, je dis dans le livre que lui et son père n'ont pas énormément d'estime pour les sionistes religieux. Ils disent grand cœur, petite cervelle, c'est-à-dire que ce sont des hommes pragmatique, qui pense aux sécuritaires d'abord. Netanyahou, quand il ne veut pas faire l'État palestinien, ce n'est pas, ou en tout cas pas que, uniquement par attachement spirituel à la Judée et à la Samarie, c'est parce qu'il considère que c'est trop dangereux de donner les hauteurs au-dessus du littoral de Tel Aviv à un futur État palestinien. Mmh. Et donc, en réalité, c'est des objectifs différents, mais qui font route commune, c'est-à-dire que la droite a en commun de s'opposer à un État palestinien, mais pas pour les mêmes raisons. Mmh. Et pour toutes ces raisons-là, Netanyahou a donné davantage de budget, de portefeuille ministériel aux partis religieux. Et de facto, ça accompagne aussi un changement démographique en Israël, avec une population plus importante aujourd'hui religieuse. Mais il ne l'a jamais dit à voix haute, mais je suis assez persuadée que Netanyahou considère que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que je ne crois pas... Lui, il était ministre des Finances, rappelez-vous, qui a réduit les allocations familiales, notamment, ce qui a touché aux familles orthodoxes. C'est-à-dire qu'il ne croit pas du tout à cette idée qu'on peut ne pas travailler et qu'on peut avoir des familles très nombreuses sans contribuer davantage financièrement. Enfin, ça reste un capitaliste très pragmatique. Mais il pense qu'il vaut mieux s'allier à ces partis-là qui le laissent faire ce qu'il veut sur le plan diplomatique, que de s'allier à la gauche avec les contraintes politiques que ça impose.
Mmh. Alors, au-delà de la société elle-même, elle s'inscrit dans une actualité au niveau sécuritaire qui est très tendue, avec un nouveau conflit avec l'Iran. Comment vous pensez que ce conflit en Iran va influencer le résultat des prochaines élections? Je ne vous demande pas d'être Madame Irma, mais juste une petite analyse à chaud.
C'est la question à 1 million de dollars, évidemment. Ouais. Toute la question, en réalité, si vous voulez, très techniquement parlant, Netanyahou, ça fait longtemps qu'il n'a plus de majorité stable. D'accord? En réalité, la crise politique en Israël en 2019, elle commence parce que Netanyahou perd sa majorité. Il la perd, si on a le temps, je rentre dans les détails, il la perd en fait pour deux raisons. La première, c'est que Naftali Bennett, à l'époque, qui faisait encore partie de son bloc, ne passe pas le seuil d'éligibilité, donc n'est pas élu à la Knesset. Et il ne le passe pas parce que la rivalité entre Netanyahou et Bennett est telle que Netanyahou a tout fait pour récupérer les voix de Bennett et l'empêcher de rentrer. Donc on voit comment les relations personnelles aussi influent le bloc politique. Et par ailleurs, Avigdor Lieberman, qui est chef d'un parti russophone, Israël Beitenu en Israël, mais donc droite laïque, qui a très longtemps été le bras droit de Netanyahou, vraiment, qui était son bras droit au Likoud et qui a siégé avec lui pendant des années. Lui aussi, les relations, elles ont tourné court, sur le niveau personnel, hein, et donc annonce à ce moment-là qu'il ne siégera plus jamais avec Netanyahou et qu'il prend ses mandats et qu'il va les mettre dans l'opposition. Et donc en 2019, à partir de ce moment-là, le bloc de droite tel qu'on le connaissait, donc qui à l'époque était moins religieux, le bloc de Netanyahou, en fait, va changer dramatiquement. Mmh. Et à partir de ce moment-là, Netanyahou ne parvient pas réellement à retrouver un réservoir de voix suffisamment confortable pour avoir une vraie coalition confortable. Et toute l'impasse politique dans laquelle on est depuis, c'est ça. Et depuis 2023, encore plus au 7 octobre, il perd certains électeurs qui se disent « Bon, ok, il est responsable de l'échec, de la catastrophe du 7 octobre, donc le monsieur sécurité, c'est terminé. » Et toute la question, en fait, tout ça pour vous dire ça, que depuis le 7 octobre, la question que ces électeurs se posent là, c'est est-ce que je pardonne, avec beaucoup de guillemets, le 7 octobre parce que je suis appréciatif de ce qui est en train d'être fait depuis 2 ans pour restaurer la position israélienne et rétablir sa position de puissance, ou est-ce que je me focalise sur le fait qu'il y a eu un échec beaucoup trop grand pour passer outre? Et c'est toute la question. Et dans les sondages, on voit que le centre-droit n'a toujours pas décidé, en réalité, de ce qu'il voulait faire. Donc, et ça n'a pas changé, ni après l'élimination de Nasrallah à la tête du Hezbollah, ni après Sinwar, ni après la guerre des 12 jours l'année dernière. Est-ce que cette guerre-là va changer quelque chose dramatiquement parlant? C'est tout le sujet. A priori, j'ai envie de vous dire non, puisque ça aurait... Voilà, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Mais ça va aussi beaucoup dépendre de l'issue de la guerre et si les Israéliens considèrent qu'une bonne fois pour toutes, le régime iranien est décapité, oui ou non.
Et on a beaucoup parlé d'optimisme et de pessimisme dans cet entretien et vous l'abordez largement dans le livre également. Vous êtes optimiste quant à l'avenir d'Israël?
Alors moi, je suis une grande optimiste de nature, mais parce que je pense qu'il y a de quoi. C'est-à-dire que les Israéliens, même face à la... D'une part, les Israéliens, face à la catastrophe, ont montré que quel que soit le niveau de chamaillerie dans lequel ils s'étaient engoncés juste avant, en fait, au moment où la catastrophe arrive, ils laissent tout de côté et ils foncent pour se défendre les uns les autres. Donc je pense que ma génération ne croira plus jamais aux déclarations du style on viendra plus, on servira plus, parce qu'on a bien compris que c'était du bluff et qu'au moment T, les Israéliens étaient réellement solidaires et ne se posaient pas la question de savoir si c'est la gauche ou la droite, allaient défendre leurs frères et leurs sœurs. Donc ça, c'est très fort en Israël. Et on a la génération qui est... celle qui est plus jeune que nous, hein, celle qui à l'âge de 20 ans s'est retrouvée à se battre, qu'on appelle la génération de la victoire en Israël, qui est une génération très forte, qui a payé un prix très lourd, mais qui a aussi fait preuve d'un patriotisme inédit qu'on ne soupçonnait pas dans la génération TikTok, etc. Et donc je pense qu'avec eux aux commandes et avec cette nouvelle réalité en se disant, bon voilà, les vieilles rancœurs, mon livre c'est un peu un appel à faire le tri des vieilles rancœurs du passé et à faire le ménage. Mais avec cette espèce d'essor renouvelé en disant on ne se laisse pas faire quand l'ennemi arrive, on a encore beaucoup de choses à faire et à dire et on ne se laisse pas abattre au bout de 2 ans et demi de guerre, ben, je crois qu'il y a de quoi être optimiste.
Merci beaucoup Myriam Schermer d'avoir été avec nous sur Academ. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Knesset 2026, Comprendre la politique israélienne. Merci beaucoup.
Avec plaisir.